Chronique de la soustraction. L'Observatoire du banal. Il était une fois la banalise, un mouvement critique et expérimental créé par Pierre Bazantet et Yves Elias au début des années 1980. Banalise est un mot inventé qui signifie « décomposition du banal ». Extrêmement discret, le mouvement de la banalise donna lieu au congrès ordinaire de banalise, congrès annuel qui s'est tenu de 1982 à 1991 à la halte ferroviaire des Fades en Auvergne. Ce congrès, où il ne se passait rien, était consacré à l'observation du banal. Facile ? Là où on pense qu'il ne se passe rien, se posent en réalité les questions cruciales de la présence et de la rencontre. Dans « Éléments de banalise », paru aux éditions Le Jeu de la Règle en 2015, les auteurs, Elias et Bazantet, s'expliquent. D'un point de vue extérieur, il est tentant de réduire ce jeu à une plaisanterie ou à une réminiscence surréaliste tardive. En le pratiquant, nous avons, quant à nous, été surpris par ce qu'implique pour la pensée sa confrontation au dérisoire. Nous avons appelé banalise l'agitation mentale encore assez confuse que provoque cette expérimentation peu raisonnable mais exigeante d'une réalité sans intérêt mais problématique. Qu'on n'imagine cependant pas que ce terme recouvre un quelconque contenu de savoir, et banaliste celui qui, ayant eu vent du congrès des Fades, a été fortement tenté d'y venir. Reste à savoir pourquoi la gare des Fades, parce qu'elle représentait, nous disent Elias et Bazantet, dans un monde de plus en plus fasciné par la rentabilité, une perte de temps absolue, totale et irrécupérable. Imaginez dans la lignée de l'international situationniste, le positionnement de la banalise, même s'il flirte avec une certaine ironie, n'en reste pas moins sérieux et politiquement engagé. À l'évidence, nous nous trouvions dans une situation désastreuse qui pouvait être analysée de manière simple et étroite. Nous étions impuissants parce que nous étions mauvais, des incapables de la pensée qui n'avaient su s'imposer, des handicapés de l'esprit qui occupaient la place qu'ils méritaient. Nous n'avions ni le panache ni le talent des esprits forts, ceux-là seuls qui méritent la reconnaissance du monde et la possession de la puissance. Nous dûmes prendre acte d'un fait cruel. Nous ne faisions pas partie de l'élite. Cette frustration radicale, au-delà de sa désagréable douleur, nous libérait d'un poids. Elle nous rendit soudainement audacieux et en conférant une publicité au congrès des Fades, nous entendions faire savoir de quel bord nous étions. La clé du tout se trouve du côté de l'homme banal, notion travaillée au corps par Elias et Bazantet, et que le romancier autrichien Robert Musil, célèbre pour son homme sans qualité, aurait certainement apprécié. L'homme banal, écrivent les banalistes, c'est probable, représente le produit le plus achevé de l'époque. Assigné par un emploi du temps qu'il ne saurait maîtriser à la répétition de tâches dépourvues de toute épaisseur, il reproduit inlassablement des attitudes sur lesquelles il n'a plus de réelle prise. L'immense désert de l'acculturation moderne est sa résidence. Les lieux qu'il habite s'abolissent sous le même signe du nulle part, la pesanteur historique et le destin qui lui est démocratiquement réservé. C'est de la conscience naissante de l'homme banal que procède la banalise. Aujourd'hui, avec l'œuvre intitulée « Une minute pour le temps », l'artiste française Carole Culteau nous invite à nous arrêter. Sur le communiqué qu'elle distribue depuis quelques années la plupart du temps de la main à la main, elle écrit « Prenons une sorte de rendez-vous, tranquillement assis sans rien faire, suspendons toute activité durant une minute. » Prendre son temps, opter pour le bas régime. Rappelons les propos d'un important penseur de l'écologie politique, Ivan Illich. Entre des hommes libres, des rapports sociaux productifs vont à l'allure d'une bicyclette et pas plus vite. Mais revenons à cette perte de temps absolue, totale et irrécupérable qu'est la gare des Fades en Auvergne, où les banalistes avaient choisi d'élire domicile pour considérer chaque année un réel insignifiant. Et examinons de plus près ce qu'est la fadeur pour achever cette chronique. En Occident, la notion pose problème. On dirait spontanément du fade qu'il incarne l'absence de position, la mollesse ou encore le flou artistique. De façon exemplaire, le philosophe français, helléniste et sinologue François Julien démonte cet a priori point par point. Dans la culture chinoise, écrit-il dans Éloge de la fadeur, livre paru aux éditions Philippe Picquet en 1991, la fadeur est reconnue comme une qualité, plus encore comme la qualité, celle du centre, de la base. Et nous explique Julien, ceci s'adresse en particulier aux arts, puisque ceux-ci sont particulièrement aptes à rendre plus sensible cette insipidité fondamentale, ils ont pour mission de révéler la fadeur à travers le son, le poème, la peinture. Quand nous commençons à voir poindre, dit encore le philosophe, au-delà de nos automatismes idéologiques, de notre conditionnement culturel, une positivité possible de la fadeur, nous serons entrés en Chine. Le poème « Pour accompagner le moine Canilao », écrit il y a plus de 1000 ans, dit exactement la même chose. Le salé et l'acide ont part, l'un et l'autre, à tout ce qu'on peut aimer. Mais c'est au centre que réside la saveur suprême qui n'en finit pas. C'était l'intérêt pour ce qui n'a, en apparence, que peu d'intérêt comme soustraction.